Réflexion critique sur la connaissance humaine. Et j'avais exposé toute l'extension de la connaissance humaine, toute la multiplicité de nos connaissances. Le premier problème qui se pose, c'est de savoir quel est le point de départ de la critique. Est-ce que nous devons d'abord critiquer notre connaissance sensible à la manière de Descartes, à la manière aussi de Platon ? Ou est-ce que nous devons considérer que la connaissance sensible n'est critiquable qu'à partir de la connaissance intellectuelle ? Je crois que c'est très important de bien préciser que la méthode critique est une méthode réflexive et réductive. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver quel est l'élément dernier ou l'élément premier de toute ma connaissance humaine. Comme c'est une connaissance réflexive, je ne peux critiquer qu'à partir d'une attitude réflexive. Je crois que c'est assez facile de comprendre cela. Nous avons des connaissances spontanées, directes, immédiates. Et puis, on a une connaissance critique qui implique une réflexion sur notre connaissance. Nous ne pouvons pas critiquer la connaissance sensible en premier lieu. J'allais presque dire que la connaissance sensible peut être erronée, mais n'est pas critiquable. Et c'est un peu l'erreur de Platon et de Descartes, ce qui a eu une très grosse influence, on ne peut pas nier, de considérer que la connaissance sensible est critiquable en premier lieu, et c'est pour ça qu'il la rejette. Tandis que nous devons, il me semble, découvrir que la connaissance critiquable, ou que la critique, doit commencer par la connaissance intellectuelle. Parce que, comme nous allons voir tout de suite, la connaissance intellectuelle est la seule dont j'ai conscience, et une conscience telle qu'elle permet cette attitude réflexive. Alors ici, il faut un petit peu préciser deux aspects de l'aspect de la réflexion. Il peut y avoir une réflexion qui implique tout simplement une auto-lucidité. J'ai conscience de toucher la table. Si je suis éveillé. Chaque matin, vous vous réveillez. Et vous vous réveillez en ayant conscience que vous passez du rêve, du sommeil, à une prise de conscience, vous êtes éveillé. Réfléchissez demain matin. À ce moment important, c'est le lever du soleil. C'est quand même très important. On passe d'un état où l'on dormait, à un état où l'on est éveillé. Vous avez conscience de cette attitude de vous réveiller. Ça, c'est une auto-lucidité. Je ne fais pas de critique à ce moment-là. Je passe tout simplement d'un état où je rêvais, j'avais des cauchemars, où je n'avais aucune conscience. Puis, j'ai dit oui. Je me réveille, je regarde ma montre, et puis je vois que je suis un peu en retard, ce qui arrive facilement. Ou bien au contraire, je regarde ma montre, et je dis, mais je me suis réveillé beaucoup trop tôt. C'est pas tout à fait ça. Alors, j'ai encore une heure à dormir. C'est un réveil très agréable. Tandis qu'autrement, je suis obligé de me précipiter. Bon, j'ai conscience de connaître, savoir l'heure qu'il est. La réflexion critique implique quelque chose de plus. C'est que non seulement j'ai conscience de connaître, mais je prends comme nouvel objet ma propre connaissance. C'est ma connaissance que je considère, non plus ce que je connais, mais qu'est-ce que c'est que connaître ? Qu'est-ce que c'est que qu'être dans cette attitude de réfléchir sur ma diversité de connaissances et sur la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Or, ceci ne peut se faire qu'au niveau d'une connaissance universelle. C'est très curieux, cela. Et donc, d'une connaissance intellectuelle. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer de caractériser tout de suite les différents niveaux de connaissance et de comprendre qu'il y a ce niveau particulier qu'on appelle la connaissance intellectuelle, il faut bien la nommer, qui implique une signification. C'est un des gros problèmes soulevés aujourd'hui spécialement. Le problème de la signification. Quand je touche la table, je suis attentif à ce problème particulier de la sensation. La sensation est une connaissance. Et nous avons vu la dernière fois que la sensation impliquait justement diverses modalités. Je sens, je touche. Je connais. Une connaissance assez extérieure, je palpe, ça résiste. C'est une connaissance que je peux décrire, mais très difficile à préciser. Je sens. Quand je dis je sens, je suis au niveau d'une connaissance sensible. Je peux aller un peu plus loin dans la connaissance sensible. Je peux imaginer. L'imagination va impliquer certaines synthèses. Il y a des connexions dans l'imagination, comme dans la mémoire. L'imagination et la mémoire, c'est très proche. C'est pas la même chose, hein. La mémoire implique le passé, la saisie du passé, tandis que l'imagination ne l'implique pas. Je fais des rapports, des relations. Et puis, j'ai une connaissance universelle. L'imagination, je peux me la représenter. C'est le domaine de la représentation. Je me représente. Parce que c'est toujours un domaine singulier que je peux décrire. Tout ce qui passe par l'imagination, je peux le décrire. Je peux me le représenter. Tandis que tout d'un coup, c'est très curieux, je passe d'un domaine d'une connaissance singulière, représentative, à un domaine d'une connaissance qui implique une signification. C'est un problème énorme, ça. La signification, je ne peux plus la représenter. Quand je connais, par exemple, un terme universel, animal, nous savons tous à peu près ce que c'est que penser animal, penser l'homme. Vous ne pouvez pas vous représenter l'homme. Vous pouvez vous représenter tel homme, mais l'homme ne peut pas vous le représenter. Animal, impossible de vous représenter animal. L'homme, vous croyez que vous pouvez le représenter, mais en réalité, vous ne pouvez pas vous représenter tel homme. Animal, vous avez beaucoup moins de tentation de le représenter, parce que animal, c'est un animal bipède, quadrupède, mille pattes. représenter l'animal. Un animal qui vole. Un animal qui ne pouvait pas. Impossible. Vous entrez dans une connaissance universelle, d'une signification universelle, qui me fait comprendre que je suis là devant quelque chose de tout à fait nouveau. Mon langage provient de cette connaissance universelle, puisque le langage implique toujours une signification, puisque le langage implique toujours l'universel. Ce sont des mots, le langage implique des mots qui ont une signification universelle, qui quelquefois ont une signification particulière, mais le particulier provient de l'universel. Je l'applique. Je dis animal, ah oui, ce cheval, c'est un animal. Et quand vous avez indiqué ce cheval, vous dites, c'est un animal. Sa signification du cheval provient de la signification universelle. Et quand vous êtes devant quelque chose que vous n'avez encore jamais vu, dont vous n'avez jamais pensé l'universel, vous dites, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un animal, je crois. Il a l'air de bouger. Je crois. Nous connaissons la signification des mots par le point de vue universel. Et nous voyons tout de suite, même là, que l'universel n'est pas unique. Et nous voyons déjà là une modalité très particulière de l'universel. Donc l'universel me permet la réflexion. Je réfléchis sur la signification de l'animal. Ce que je ne fais pas beaucoup d'habitude, mais je peux réfléchir sur n'importe quel mot. Prenez n'importe quel mot. Il est universel. Il a une modalité. Il a une signification universelle. Et vous vous apercevez que l'universel a des modalités différentes. 5 modalités qu'on va appeler les prédicables. C'est très curieux, ça. Et ça, vous retrouvez ça dans toute pensée humaine, peu importe le système philosophique que j'ai, c'est très curieux. Je suis vraiment là en face de quelque chose de très fondamental de la vie intellectuelle. Platon en a parlé, Aristote en a parlé, d'autres en parlent moins, mais ils s'en servent. Alors regardons ces 5 modalités, parce que c'est quelque chose de très fondamental dans la vie d'intelligence. Il y a l'universel générique. Je les écris au tableau, ça ira mieux.
L'espèce. Cinq modes universels. Alors, facile à mettre des noms, des termes autour pour que ça vous dise quelque chose. Hein. Vous avez le genre, c'est toujours l'animal. On y revient tout le temps. Nous le portons en nous. Nous portons en nous un animal, plus ou moins bien dressé, plus ou moins habile et plein de vie, nous portons en nous un animal. La différence spécifique, rationnelle. l'espèce.
L'espèce au sens fort, il n'y en a qu'une que je connais. L'homme. C'est très curieux, ça. Au sens fort, il n'y a que l'homme. Ce qui montre que l'homme est fait pour connaître l'homme. En premier lieu, je connais mieux que l'homme, que, je connais beaucoup mieux l'homme que le cheval. Parce que j'ai une connaissance particulière de l'homme qui est unique, de sorte que je peux dire que l'homme, c'est vraiment l'animal raisonnable, rationnel, et qu'il est le seul. Alors, l'homme n'est vraiment homme que quand il émerge jusque-là. Parce qu'il y a des hommes qui restent toujours au stade animal, du moins, dans leur manifestation. Dans leur manifestation, ils ont autre chose. Ils ont un petit éclair du sourire. L'animal ne sourit pas. Il fait des grimaces. Mais il ne sourit pas. Et donc, la rationalité de l'animal homme apparaît par le sourire. L'enfant sourit très vite. C'est la première manifestation de son intelligence. Du rationnel. Donc de l'intelligence. Donc de l'esprit. C'est très beau du reste de voir que la première manifestation de l'esprit, c'est le sourire. Quelqu'un qui ne sourit jamais, ça ne va pas. La mère s'inquiète quand elle voit un tout petit qui ne sourit jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tandis que dès qu'il commence à sourire, oh, tout de suite, comme il est intelligent, il sourit quand la mère lui sourit. Hein. Au point de départ, c'est comme ça, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose de très spécial. Alors on a l'espèce homme, la propriété, le propre de l'homme, capable de sourire. C'est la manifestation. Je crois qu'on peut être capable de sourire. C'est ce qui est le plus caractéristique de l'homme, capable de sourire. Les vieux exemples, c'est capable d'apprendre la grammaire. Ce qu'on dit habituellement, l'homme capable d'apprendre la grammaire. Les tests, hein, les tests sont au niveau du propre. Alors, il est capable de rire, de sourire. Parce que je crois que le sourire est beaucoup plus humain que le rire. Il y a des gros rires gaulois. Hein. Ce n'est pas le propre de l'homme. C'est le propre de la Gaule. C'est différent. Alors, l'accident, c'est la dimension, la taille, la couleur des cheveux. Aujourd'hui, c'est variable, hein, alors c'est plus difficile. Ça, l'accident, ça change. C'est la longueur du nez, la couleur des yeux. Ce que vous voulez, les accidents, c'est multiple, multiple. Alors, c'est les quatre modalités. Les cinq modalités de l'universel. Alors, il faut réfléchir un instant là-dessus. Je crois que c'est très important pour tout ce que nous verrons ensuite. Vous voyez, on est devant la première manifestation de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle apparaît à travers l'universel. Et l'universel apparaît tout de suite dans une diversité. Pourquoi cette diversité? Parce que cette diversité, je peux l'ordonner. L'universel générique, c'est ce qui est le plus fondamental. Je veux englober le plus de monde possible. C'est l'universel œcuménique. On englobe tout. Pour ça, il faut descendre assez bas. C'est fondamental. Alors on englobe tout. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne pensent qu'en englobant. Toujours. Aller le plus loin possible pour ramasser le plus de monde possible. Pour ramasser le plus de choses possible. Il y a ça dans le caractère de l'intelligence. L'intelligence veut recueillir le plus de choses possible. Heidegger aime beaucoup ce mot « recueillir » pour l'universel. On recueille, on rassemble. On passe tout de suite aux épis de blé. Et on en fait une motte. Alors on rassemble ça. C'est le geste du reste, rassembler. Ça, c'est la connaissance universelle générique. Elle est fondamentale. Elle va le plus loin possible dans l'extension. Mais elle perd en compréhension. Alors j'ai tout de suite ici deux aspects très importants, l'extension et la compréhension. L'universel générique, c'est l'universel de la plus grande extension et de la plus petite compréhension. Je dois perdre en compréhension pour gagner en extension. Il va me dire, mais pourquoi ça? C'est un fait constaté, animal. Je vais très loin. Parce que tous les caractères particuliers de tel animal, je dois les laisser tomber pour entrer dans le genre animal. La différence spécifique, c'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. La différence spécifique, c'est essayer la plus grande précision pour déterminer. C'est l'exigence de la détermination. La différence spécifique, elle a souvent très peu d'extension, puisque elle détermine, mais une très grande compréhension. C'est l'inverse. C'est deux aspects tout à fait différent. Je ramasse le plus de choses possible, et pour ça je perds le plus de détermination. De l'autre côté, au contraire, je détermine, c'est le fil à plomb. Je détermine nettement. Et alors, des quantités d'autres choses tombent. L'espèce, pensons à l'homme, et ne pensez qu'à l'homme. Parce que le cheval, c'est une espèce, mais c'est pas une véritable espèce. Pourquoi? Parce qu'au fond, la seule véritable différence spécifique que vous connaissez, c'est rationnel et irrationnel. Alors, il y en a qui aiment le rationnel et même qui aiment l'irrationnel. C'est la grande différence spécifique. Vous ne pouvez pas préciser l'espèce propre, caractéristique du cheval. La différence spécifique, je ne connais que le rationnel, et l'espèce que le rationnel. Donc, ces deux sont réservés à la connaissance de l'homme. C'est très curieux. Il y a deux types, deux modalités de l'intelligence qui sont faites pour connaître l'homme. Et les autres réalités, je ne peux pas les mettre avec autant de précision. Alors, qu'est-ce qui remplace la différence spécifique? C'est le propre. Le propre, c'est ce qui manifeste la différence spécifique. Et donc, quand je n'ai pas la différence spécifique, qu'est-ce que je fais? Je fais l'alliance du genre et du propre. Toutes les classifications, vous voyez, des animaux, des papillons, des insectes. Regardez bien, c'est toujours le propre et le genre. Ne saisissez pas la différence spécifique à l'espèce. Alors le propre, c'est quelque chose qui caractérise un être. C'est quelque chose qui montre que nous sommes en présence de telle sorte d'insectes. Donc le propre se manifeste. Tandis que la différence spécifique, justement, c'est quelque chose qui demeure toujours très caché. Et l'accident, c'est facile à comprendre. Alors, ce qui est très curieux, c'est de voir que l'accident qui est essentiellement quelque chose d'individuel. La couleur des cheveux, c'est très individuel. La taille d'un individu, la couleur des yeux. Et cependant, cette réalité très individuelle, je la saisis sous un mode universel. Alors, je n'explique pas maintenant ce que c'est que l'universel. J'y reviendrai, mais je voulais simplement vous mettre dans cet état de recherche. Nous le verrons au moment de la logique. Parce que c'est ici où il y a une bifurcation entre deux attitudes réflexives sur la pensée, la logique et la critique. La logique s'arrête à l'universel. Et donc, nous verrons ce qu'est l'universel pour comprendre ce que c'est que la logique. L'universel, vous l'avez jamais vu existant. L'universel n'existe que dans votre intelligence. Il n'existe que dans votre intelligence. On verra ça à ce moment-là. Ce sera très intéressant de voir comment on peut distinguer la réalité existante singulière et l'universel. En nous, dans l'homme, quand il réfléchit, il est à la fois un être singulier, très singulier, vous êtes des réalités très singulières, c'est bien évident, pas la peine de chercher d'être original, vous l'êtes parce que vous existez dans une matière, dans une quantité avec des qualités, vous êtes original. Si on ne la voit pas, vous savez que vous êtes original. C'est suffisant. C'est très reposant. Parce que personne ne peut me remplacer. Personne. Personne au monde ne peut me remplacer. On est unique. C'est invraisemblable, juste. On est unique dans notre existence. L'universel, au contraire, puisque l'universel est générique, l'universel, c'est l'intelligence qui a besoin de classer. C'est pour classer l'universel. Vous avez besoin de classer. Alors vous avez besoin d'un très grand tiroir. Le tiroir le plus vaste, c'est le genre. Et vous fourrez tout ce qu'il y a de générique dans ce tiroir genre. Il y a plusieurs genres. Il n'y a pas qu'un seul genre. J'ai pris animal. Mais il y a d'autres genres. Il y a des genres qui sont encore plus universels. La nature. La réalité existante, la substance, comme diront les philosophes, est encore plus générique. C'est un être réel, c'est quelque chose. Vous savez, quand vous ne savez plus très bien, c'est quelque chose, ça on le sait tout le temps. Quelque chose, ça peut très bien ne pas être un vivant, et donc ça peut très bien ne pas être un animal, le quelque chose. Et l'animal, c'est quelque chose aussi. Donc le quelque chose enveloppe tout. C'est le tiroir tout à fait fondamental, ça. Le capharnaüm de l'intelligence. Hein. Si vous mettez tout dedans, c'est quelque chose. L'intelligence qui enveloppe le plus possible. Alors c'est très curieux de voir ça. C'est que la signification se donne tout de suite selon ces cinq modalités. Pourquoi ? Parce que mon intelligence est une intelligence qui abstrait. C'est une intelligence qui abstrait. Ma connaissance sensible est toujours singulière. Ma connaissance imaginative qui représente est toujours singulière. Seule l'intelligence est universelle. Elle laisse tomber toutes les notes singulières, particulières, pour saisir autre chose, quelque chose qui peut être universel. Et ça peut être une maladie de l'intelligence, ce qu'on appelle la cérébralisation. Les psychologues aiment de dire ça. La cérébralisation. La cérébralisation, vous savez, c'est celui qui continue indéfiniment d'abstraire. Il veut abstraire le plus loin possible. Ça continue indéfiniment. On ne sait plus très bien ce qu'on dit. Ça arrive. Même chez les philosophes. Ça ne plus très bien. Ils n'ont plus de contact avec le réel. Alors, ce n'est que quand on a le contact avec le réel qu'on sait vraiment ce qu'on dit. Ils n'ont plus de contact, ils sont partis très très loin, parce que l'intelligence peut abstraire, alors elle abstrait de plus en plus. Qu'est-ce qui est le plus abstrait? Le genre, le propre ou l'accident? Vous voyez, si vous essayez de comprendre, qu'est-ce qui est le plus abstrait? Qu'est-ce qui est le plus universel? Posez-vous la question, c'est intéressant. Bien, tout de suite, vous voyez qu'il y en a deux qui peuvent être très universels. Le genre et l'accident. L'accident, ça peut aller très très loin. Quand vous dites la courbure du nez, même du chat, le nez du petit chat, c'est très différent comme courbure, n'est-ce pas? Le nez de n'importe, ou la courbure même d'un arbre. Donc ça dépasse le genre animal, la courbure. Être courbe, c'est pas être droit, c'est sûr, être courbe. C'est très curieux. L'intelligence qui conçoit être courbe, c'est un accident. Et puis, le genre, on l'a vu. Alors, il y a l'aspect fondamental, qui est le plus universel, et puis l'aspect extérieur. Et ce sont ces deux qui ont de fait l'universalité la plus grande, donc qui sont le plus abstraits. Puisque l'universel présuppose qu'on laisse tomber des quantités d'éléments pour ne retenir qu'un seul. C'est ça le propre de l'abstraction. Alors nous verrons pourquoi on abstrait, pourquoi on doit abstraire. Même si ce n'est pas très agréable de dire que notre connaissance intellectuelle est une connaissance abstraite. Parce que quand on dit que notre connaissance intellectuelle est une connaissance abstraite, vous voyez que tout de suite, on voit que notre connaissance intellectuelle ne peut pas être adéquate à la réalité. Alors ici, vous vous séparez de toute une quantité de penseurs qui voudrait que l'intelligence ne soit pas abstraite. Alors je dirais, ces penseurs, ils oublient de regarder le langage, quoi. Le langage est abstrait. Prenez un dictionnaire. Vous voyez bien qu'il est c'est abstrait, n'importe quel terme. Il englobe des quantités de choses. Puis là, vous avez des termes techniques qui englobent beaucoup moins, qui sont des termes propres. Si vous voulez être un peu précieux dans votre langage, vous n'employez que des termes propres. Propres à la médecine. Et vous n'employez pas. Et vous employez les termes propres à l'égard des herbes. Le terme scientifique, le terme propre, puis le terme vulgaire. Alors apprenez 100 termes propres et vous pourrez avoir un langage très précieux. Parce que plus personne ne vous comprendra. Mais ça n'a pas d'importance. Vous aurez l'impression de dire quelque chose de très intelligent. Alors que le langage courant est un langage, oui, approximatif. Vous ne cherchez pas à donner quelque chose de très précis. Mais dès que vous entrez dans un domaine philosophique, logique, scientifique, tout de suite, vous précisez. Et votre langage devient un langage propre. Mon intelligence abstrait, ce qui lui permet d'avoir non seulement conscience, auto-lucidité, mais de pouvoir se retourner sur elle-même, et donc d'être une connaissance critique. La critique part d'une connaissance abstraite, d'une connaissance universelle. Mais puisque l'universel est multiple, quel est l'universel que je vais saisir? Quel est le premier? Alors là, nous touchons tout de suite un autre type de connaissance, du moins un autre problème. Dès qu'on est en face de quelque chose de multiple, on doit l'ordonner. C'est sûr. Tant qu'on énumère simplement, on n'est jamais satisfait. On veut aller plus loin. Alors je vais me poser la question, comment ordonner ces cinq modalités? Ces cinq modalités de l'universel, que vous pouvez saisir, encore une fois, en réfléchissant tout simplement sur le langage. Et si vous posez des cols, je prendrai n'importe quel terme, un petit Larousse à côté de moi, puis je vous dirai, ce terme-là, qu'est-ce qu'il est? Générique? Propre? Accident? Vous n'arriverez pas tout de suite à le dire, je suis sûr. Parce qu'on n'y réfléchit pas. Mais c'est pourtant fondamental au point de vue de la signification. Une signification est ou générique, ou spécifique, ou propre, ou accidentelle. Pas être autrement. Ça ne change pas. Parce que ceci relève de la nature même de mon intelligence. Mon intelligence est naturellement une intelligence qui abstrait et naturellement une intelligence qui, parce qu'elle abstrait, va être diverse dans son abstraction. Si mon intelligence n'était pas une intelligence qui abstrait, mon intelligence serait une intelligence comme un miroir. Elle reflèterait la réalité. Il y a eu des théories marxistes sur l'intelligence et qui ont dit que l'intelligence était un reflet. Vous voyez le reflet, un fleuve quand il reflète des arbres. Quand vous arrivez par El Monial, hein, il y a un petit ruisseau là, et la cathédrale, la basilique se reflète dedans. Certains jours, pas aujourd'hui, mais certains jours, ça se reflète admirablement. Ou un clair de lune se reflète dans un petit... quand il fait clair. Alors ils disent que l'intelligence, c'est un reflet de la réalité. Et je dis non, l'intelligence n'est pas un reflet de la réalité. Si l'intelligence était un reflet de la réalité, elle serait comme une plaque photographique. C'est un reflet. Alors, il y a des jours où il y a de la lumière, des jours où il n'y a pas de lumière, des jours où il y a de la pluie, des jours où je... Comment expliquer ça? Il y a des intelligences qui sont claires, puis des intelligences qui ne seront jamais claires. Le reflet est mauvais. Il y a de la buée. Il y a du brouillard. Bon, l'intelligence n'est pas le reflet de la réalité. Pourquoi? Parce que mon intelligence est vitale. Dire que l'intelligence est un reflet de la réalité, c'est dire que l'intelligence uniquement imite, copie. C'est ça le reflet, c'est de copier. Alors mon intelligence est vitale. Quelle est l'opération propre du vivant? C'est l'assimilation. Mon intelligence assimile. Elle ne fait pas que cela, hein, on verra. On verra la diversité des opérations d'intelligence. Mais mon intelligence assimile. Quand elle connaît. Et je dis oui, maintenant j'ai compris. Ça vous arrive de temps en temps de dire oui, j'ai compris. C'est quand vous avez assimilé. Tant que vous n'avez pas assimilé, vous pouvez répéter. Vous voyez le reflet? Vous pouvez répéter. Mais quand je répète, sans comprendre, je ne dis pas du tout que mon intelligence est à l'œuvre. Répéter sans comprendre, ce n'est pas une œuvre de l'intelligence, ça. C'est l'œuvre de la mémoire. Il y a des gens qui ont une mémoire folle, ils répètent indéfiniment tout ce que je veux dire, mais ils n'ont rien compris. C'est le propre de l'examinateur, hein, de voir devant un étudiant qui est capable de vous réciter toute une page entière d'un livre. Il ne sait pas nécessairement quel est le livre, parce que l'examiné a bien le soin de ne pas dire d'où sort sa tirade. Il la sort comme si ça venait de lui. Pour voir si ça vient de lui ou pas de lui, qu'est-ce qu'il fait l'examinateur? Il le coupe au bon endroit. Et puis il essaie de voir si ce qui est dit est assimilé. Si celui qui récite sa leçon a compris. Si l'examinateur n'a pas compris, il est très heureux d'entendre une petite leçon débitée. Il le laisse débiter jusqu'au bout. Très bonne note. Il a tout récité. Il n'a rien compris. Alors quand on passe des examens de philosophie, c'est ennuyeux. D'autres examens, ça peut encore aller, parce que quelquefois on dit, ce n'est que de la mémoire. Surtout ne cherchez pas à comprendre. Alors, apprenez. Le tout, c'est d'apprendre. Alors ça, c'est la mémoire. Intelligence au reflet. L'intelligence qui ne fait que refléter, qui ne fait que copier. Ce n'est pas une intelligence vivante. C'est une intelligence qui est liée à l'imagination et qui n'est que reflet et qui est mémoire. Une intelligence vivante assimile, comme un vivant. Qu'est-ce que c'est qu'assimiler ? C'est très important pour comprendre ce que c'est que la connaissance. On assimile. Qu'est-ce que c'est qu'assimiler ? Nous savons très bien dans l'ordre de la vie végétative. Au début du repas, les aliments sont dans le plat ou dans votre assiette. À la fin du repas, ils ne sont plus dans l'assiette. Il y a eu un passage extraordinaire. On n'y pense pas, on fait ça tout à fait couramment. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de voir ça.
Ils attendaient dans la cuvette le tout dernier assaut des Viettes. Ils creusaient leur trou. Bien, bien, fou. Depuis des mois, dans la bataille, sous un orage gris de ferraille. Il tiendrait le coup. Bien, bien, fou. Le PC, Gabriel, est tombé ce matin. Isabelle, tiens ton corps. On se bat au corps à corps, près du commandement. Des gosses de 18 ans pour la France tombent en chantant.